C'est le moment de retrouver notre émission mensuelle Un moment pour la Terre. Et Martine Vallon, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du sol.
Oui, alors aujourd'hui finalement, c'est une émission qui sera en lien très proche avec l'intitulé de notre chronique habituelle. Je veux aborder la question des sols parce que nous sommes en train de préparer, de participer à un programme, un projet qui est mené par France Nature Environnement à l'échelle nationale et qui est ce qu'on appelle une initiative citoyenne européenne. Donc, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que c'est que l'initiative citoyenne européenne. Cette initiative est intitulée People for Soil, donc les gens, le peuple pour les sols. Et donc, nous avons embrayé, France Nature Environnement ferait partie des organisations qui porte ce programme qui va être décliné par nous à l'échelle départementale donc et même régionale. Alors c'est les sols, quand on parle des sols comme ça, ça dit pas grand chose finalement. Le sol, c'est un peu l'aspect oublié de notre écosystème. On marche dessus, on se rend pas vraiment compte, et pourtant je dirais, si on le regarde avec un peu un aspect, un regard peut-être un peu plus spiritualiste ou un peu plus symboliste, la Terre, Gaïa, notre mère, c'est vraiment à l'origine de la vie aussi. Donc nous avons parlé de l'eau, mais l'autre élément essentiel, c'est la Terre. Et on s'est aperçu que, en dépit de l'importance et du rôle primordial d'un sol sain dans notre vie, c'est finalement un milieu qui n'est pas protégé à l'heure actuelle, notamment à l'échelle européenne. Donc, cette initiative citoyenne européenne, elle est dans l'axe de dire les sols sont un des fondements de notre vie, ils sont à la base de notre alimentation et il est nécessaire de prendre ça en compte aujourd'hui et de se poser ces questions-là. Donc le sol, c'est le support de la vie terrestre. C'est la, alors ce qu'on appelle sol, c'est la transformation de la couche superficielle des roches. C'est la croûte terrestre qui est dégradée et qui est enrichie par les apports organiques et tous les processus vivants qui se mettent en place. Et c'est extrêmement important. C'est un écosystème vivant. Et c'est aussi l'interface en fait entre biosphère et lithosphère. Le sol, il est à mi-chemin entre le ciel et les profondeurs des roches. Et cette partie du sol qui est particulièrement riche en humus, c'est ce qu'on appelle l'humus, toute la matière organique qui est composée des éléments vivants. Et cette partie-là, c'est un quart de la biodiversité mondiale selon les scientifiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on prend une poignée de terre, que c'est pas grand-chose, mais c'est un matériau qui est totalement vivant et plein de micro-organismes, plein de vie de toutes sortes. Donc, les bactéries, les nématodes, des champignons, enfin tout ça qui décompose la matière organique pour en fabriquer une nourriture, des nutriments pour les plantes. Et donc le sol, c'est vraiment à la base de notre alimentation. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour manger est issu du sol. Alors, je disais la vie d'une poignée de terre. On sait que, en termes de micro-organismes, dans un hectare de terre, il y a 5 tonnes de micro-organismes. C'est vraiment absolument incroyable. Et donc, on a cette première couche, et puis on a aussi cet aspect de structuration du sol qui est amené, donc, et de transformation par une autre variété, je dirais, d'animaux vivants, qui sont les vers de terre. Donc là, qui eux, transforment la structure plus profonde du sol et permettent à l'eau et à l'air
de s'écouler
mmh. et d'être intégrés en fait aussi et donc d'éviter le tassement et le durcissement de la terre. Alors pourquoi s'intéresser au sol aussi? Ils sont limités, bien évidemment, comme notre monde est limité. Ils sont irremplaçables. On a beau essayer de faire pousser des choses sur des substrats artificiels et puis avec des nutriments qui viennent avec de l'eau, donc avec des sols totalement artificiels, c'est quelque chose qui n'est pas reproductible et utilisable à très grande échelle. Je veux dire, bon, effectivement, on est aujourd'hui dans des expérimentations sur des fermes verticales, ce qu'on appelle les fermes verticales, avec des étages de terre artificielle, des serres, enfin le soleil aussi qui est remplacé par de la lumière artificielle, etc. Enfin, bon, c'est scientifiquement parlant, expérimentalement, enfin bon, en termes de technologie, c'est quelque chose qui peut être excitant. Mais en termes de développement durable, en termes d'écosystème équilibré, on voit bien que ça n'a pas de sens véritable, profondément. Et on en vient à penser que effectivement, en allant vers des projets de cet ordre, en allant vers des comme ça, des fermes totalement artificielles, finalement, on oublie le sol, on oublie son importance et on continue à aller vers une dégradation, une érosion, une exploitation. Et aujourd'hui, les sols sont à la fois dégradés, mais aussi assez épuisés, surexploités. Et il y a une baisse de la matière organique, il y a une perte de la biodiversité, et il y a aussi quelque chose de plus grave encore, des contaminations accidentelles qui font que, alors accidentelles ou chroniques, qui font que on a une perte du sol extrêmement importante à l'heure actuelle. Donc, alors, je reviendrai sur cet aspect du sol aussi, base de notre alimentation, en fait. Hein, le sol est vu, à l'heure actuelle, beaucoup comme un support agricole. On oublie qu'il y a tous ces aspects dans les forêts. Donc, il y a, je dirais... des services qui sont rendus à la population, qui sont rendus à l'être humain, qui sont plus que celui simplement de l'alimentation, par les sols et par le fait qu'un sol est sain. Donc,
alors lesquels ?
Alors, il y a donc l'ONU, par exemple, a déclaré en 2015 Année internationale des sols avec une phrase qui était un slogan qui était des sols sains pour une vie saine. Et effectivement, alors un sol sain, il y a des critères qui peuvent définir ce qu'est le sol sain. Il est sain, considéré comme sain, lorsqu'il parvient à héberger un écosystème qui est lui-même fortement lié aux écosystèmes terrestres ou aquatiques à travers des symbioses, en fait, entre le sol et l'eau, de façon à ce qu'il y ait une sorte de... De relations fortes entre les deux milieux, ce qu'on appelle par exemple les zones humides, où on a eau et sol qui sont extrêmement proches et qui interagissent. Et donc, il y a de nombreuses espèces qui en sont issues. Mais on a aussi, à certains moments, une relation, une liaison qui est faite, par exemple, sur des espèces qui passent une partie de leur vie, l'hibernation ou l'estivation, enfin, donc qui peuvent passer du milieu aquatique au milieu terrestre. Mmh. Donc, on a tout cet aspect-là. Le sol est considéré comme sain lorsqu'il produit... Donc là, ça signifie, en fait, que fonctionnellement, le sol lui-même amène sa participation à un écosystème global, à une vie qui se déroule. Il est sain aussi lorsque donc il peut produire des récoltes. Il est sain lorsqu'il peut stocker le carbone et l'azote de l'atmosphère. On verra que selon la qualité du sol, aujourd'hui, le stockage du carbone par le sol, il faut savoir que c'est un aspect important des services écosystémiques rendus par le sol. Le sol, c'est le deuxième puits de carbone après l'océan. Donc on a vraiment là, et aujourd'hui dans certains cas il semblerait qu'il y ait une diminution de ces capacités de stockage du carbone, notamment par exemple lorsqu'il y a des assèchements, donc les tourbières que l'on assèche, ou les etc., ça diminue, donc la qualité du sol influe sur sa capacité à stocker le carbone. Autre élément aussi, il est considéré comme sain, donc là c'est tout à fait aussi en lien avec sa structure, avec sa qualité, ses qualités, lorsqu'il est capable de retenir les eaux de pluie et de ruissellement. Les sols qui sont trop compactés, qui ont été mal gérés, notamment en termes d'agriculture, n'arrivent plus à retenir suffisamment les eaux de pluie et de ruissellement. Et donc, on voit que là, c'est une des qualités qui se perd. Et une qualité importante, parce que la capacité de retenir l'eau de pluie permet de lutter contre l'érosion. Donc, les sols qui sont... Enfin, c'est vraiment un des acteurs des cycles qu'on appelle biogéochimiques. De la même façon aussi, donc, autre élément extrêmement important... Le sol joue un rôle dans la dégradation des polluants, soit en les fixant, soit en les dispersant, soit aussi en les dégradant carrément, c'est-à-dire qu'il y a un aspect comme ça qui est un aspect de résilience qui est apporté par le sol à nos interventions polluantes.
Comment il peut dégrader la pollution ?
Comment il peut dégrader la pollution ? Alors, je ne pourrais pas répondre sur un aspect extrêmement d'expertise scientifique, mais on voit, à l'heure actuelle, par exemple, il y a des expérimentations qui sont faites sur les capacités donc de certaines bactéries à intervenir sur des polluants de type huile ou résidus de pétrole, etc. Donc il y a des recherches qui sont faites en ce sens. Et donc en fait, ce sont certains éléments du sol qui agissent dans ces occasions. C'est-à-dire qu'en fait, parmi les millions et millions d'organismes vivants qui existent dans le sol, eh bien, certains interviennent de la même façon que les champignons, par exemple, dégradent le bois pour pousser. On a d'autres types de bactéries qui peuvent dégrader des tas d'autres matériaux. Donc, ça fait partie, effectivement, la position, enfin souvent on dit la nature reprend ses droits, et c'est vraiment dans ce sens-là où en effet à certains moments l'ensemble du vivant et donc l'ensemble de ces éléments qui sont dans le sol lui-même viennent intervenir pour réparer les erreurs qu'on a pu faire ou les pollutions qu'on a pu engendrer et on le voit à certains moments donc progressivement il y a des évolutions lorsqu'on abandonne un lieu, un terrain, une ville, ça repousse à l'intérieur. Donc, alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il y a résilience, le sol travaille, mais c'est extrêmement long. C'est-à-dire que pour refaire une couche de terre arable, il faut des centaines d'années, enfin, pour vraiment reconstituer un sol. Donc, on a quand même intérêt à faire attention à ce qu'on fait en intervenant. Alors, j'avais prévu deux petits morceaux de musique pour faire un peu des pauses et pas être trop lourde dans mes explications. Donc la première, c'est Mireille Yam qui chante « Dans le ventre de terre-mère ». Donc ce sont des musiques un peu symboliques.
Alors on l'écoute, « Dans le ventre de terre-mère ». Dans le ventre de Terre-Mère, on reprend donc cette émission Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement et Martine Vallon. Donc il est question des sols vivants à protéger.
Oui, donc je disais, le sol apporte donc tout un certain nombre de services qu'on appelle écosystémiques à l'être humain. Donc par exemple, par rapport à l'adaptation au changement climatique, le fait que ce soit un puits de carbone extrêmement important va entraîner une meilleure régulation du climat, donc par la captation du CO2. Ça va aussi permettre un sol en bonne santé, permet la diminution de l'érosion. Et puis, bien entendu, il y a cet aspect de production du sol, puisque c'est la base de toute production d'alimentation. Un pays qui n'a pas un sol en bonne santé n'a aucune autosuffisance alimentaire. Donc, il est là aussi extrêmement important de se préoccuper de ces aspects-là. Il apporte donc la matière organique, la filtration de l'eau. Il apporte des matériaux aussi. Ensuite, on utilise l'argile, etc. Donc cette autre particularité, enfin une couche autre du sol. Donc on a vraiment là de multiples apports. Et donc je resterai sur cet aspect aussi de substrat agricole fertile. C'est 90% de la nourriture humaine et animale qui est apportée par le sol. On considère sur la terre. Aujourd'hui, quels sont les problèmes auxquels il y a à faire face dans ce niveau-là ? Un des premiers problèmes, c'est l'artificialisation, bien évidemment. Donc, l'activité humaine entraîne une artificialisation importante des sols. On considère que depuis 1990... 1 million d'hectares en Union européenne ont été artificialisés. Pour le dire dans une forme peut-être plus évidente, on parle de 500 stades de foot par jour. Donc c'est vraiment
qui sont artificialisés.
Mmh. Voilà. Donc en 2006, on avait surface imperméable, 200 mètres carrés par citoyen de l'Union européenne, en Union européenne, d'accord ? Donc c'est comme si on avait, nous, tout autour de nous, 200 mètres carrés bétonnés. Mmh. Alors, cette artificialisation, elle est multiple, elle a de multiples visages. Les logements sont les zones commerciales, les parkings, les industries, les zones artisanales, les routes, beaucoup aussi. Donc, tout ce que nous construisons au fur et à mesure. Ça, c'est un des problèmes d'aujourd'hui. Le deuxième risque pour le sol, c'est l'agriculture intensive, donc l'utilisation de pesticides, d'engrais minéraux, la monoculture qui entraîne un déséquilibre et une érosion, une perte de matière organique et une dégradation du sol. Par rapport, par exemple, aussi, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même des choix qui sont faits sur de l'agriculture pour faire, par exemple, des agricarburants. Donc, on a une diminution des cultures vivrières. On a aujourd'hui aussi une évolution de l'agriculture vers quelque chose qui est... j'allais dire une industrialisation, c'est-à-dire que en Union européenne, 3% des plus grandes entreprises contrôlent 50% des terres. En Roumanie, par exemple, on a 20 à 30% des terres agricoles qui sont contrôlées par des investisseurs. européen. Donc ça veut dire aussi que là, on a une dissociation entre ce qu'est la terre, l'utilisation pour produire de la nourriture, l'idée, l'image qu'on se fait du paysan, de l'agriculteur, et ça devient une industrie de production avec une gestion qui est une gestion financière de grands groupes qui ne se préoccupent pas de ce que peut être l'avenir de cette terre, de ce sol, et dont l'objectif est de lui faire produire là tout de suite, rapidement, un maximum, avec un maximum de rapports. Donc effectivement, cette nécessité d'une relation équilibrée entre l'être humain qui le travaille et sa terre, elle est complètement détruite. Et ceux qui travaillent sur ces grandes fermes, qui ne sont plus des fermes finalement, n'ont plus aucune notion de ce qu'ils sont en train de faire ou de l'impact de leur acte sur ce qu'ils font. Enfin, il n'y a plus de lien entre celui qui travaille la terre et la terre elle-même. Mmh. Donc ça, c'est aussi une forme de conception des choses qui fait que, effectivement, il y a une mise en danger, forcément, du sol lui-même. Ce qui a généré l'action qu'on va mettre en route, c'est effectivement cet aspect où les sols aujourd'hui, on est à l'heure actuelle au niveau des textes de loi et de la prise en considération de certains concepts, j'allais dire, mais au niveau de l'Europe. Par exemple, on a des textes de loi qui gèrent l'eau, enfin, qui permettent de préserver les qualités de l'eau, etc. On a mis en place un certain nombre d'outils pour faire face à ces risques de dégradation sur certains autres domaines. Actuellement, les sols n'ont aucun statut, j'allais dire, juridiquement parlant. Le sol, c'est une propriété privée. Et celui qui la possède fait ce qu'il en souhaite. Et donc, cet aspect de service rendu à tous par un sol en bonne santé, il n'est absolument pas envisagé et pas pris en compte. Et donc, on sait que les problèmes de contamination potentielle, ils sont multiples. J'ai parlé de l'agriculture, mais on a aussi la déforestation, on a aussi tout ce qui est extraction minière, gaz de schiste ou autre, qui entraîne des contaminations potentielles. On a les activités industrielles qui sont pour 34% dans les contaminations qui sont arrivées. On a simplement les routes qui entraînent une pollution du sol par ce que les voitures rejettent. Donc, ces sols n'ont pas de statut, pas de texte de loi, pas de protection. De là est née cette idée donc de notre projet, du projet auquel on participe, People for Soil. Donc c'est une initiative européenne. L'initiative européenne, c'est issu du traité de Lisbonne en 2007. C'est le droit pour un rassemblement d'au moins 1 million de citoyens de l'Union européenne qui viennent de au moins un quart des pays de demander à ce que un texte, une loi soit rédigée sur un sujet ou un autre. Donc, il y a un certain nombre de conditions pour que ce soit recevable. Donc il faut un comité de citoyens qui soit composé d'au moins 7 citoyens résidant dans au moins 7 États différents de l'Union européenne. La proposition doit être dans le cadre des attributions de la Commission. Elle ne doit pas être abusive, fantaisiste ou vexatoire, donc il faut que ça soit une demande sérieuse. Elle ne doit pas être contraire aux valeurs de l'Union européenne et elle peut promouvoir la création ou la ratification d'une loi. Donc, c'est effectivement un regroupement de citoyens de l'Europe qui disent « nous souhaitons que tel problème soit examiné et que une décision, un texte soit pris en fonction de ça ». Alors, on a, ça a traîné pendant très longtemps, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est potentiellement envisageable depuis 2007, mais en fait, ça a été freiné par, par plusieurs pays, dont la France, pour que, jusqu'en 2012, donc, le principe n'a été transcrit dans le règlement européen qu'en 2012. Et la première initiative qui a atteint le million de signatures, ça a été l'eau. C'était un programme qui s'appelait, enfin une proposition qui était Right to Water, donc l'eau, un droit humain. Donc ça a été la première qui a eu un million de signatures. Alors après, une fois qu'on a déposé la pétition avec toutes les signatures voulues dans le temps voulu, donc on a un an pour faire signer, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement déboucher sur quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la pétition, elle est examinée par la Commission européenne qui ensuite auditionne les 7 partenaires qui ont déposé cette pétition. Donc, par exemple, l'eau, un droit humain, ça a été la première initiative qui a atteint le million de signatures en 2013. La réponse, enfin, ça n'a pas été refusé, mais la réponse qui a été donnée n'a pas été satisfaisante. La deuxième, ça a été, enfin pas la deuxième, mais une autre initiative, par exemple, a été une qui s'appelait Un de nous et qui était sur la recherche embryonnaire. Donc là, ça a été refusé. Ensuite, bon, il y en a eu une autre sur la vivisection, enfin, etc. Donc ça veut dire que, effectivement, là, nous, on est, donc France Nature Environnement fait partie des 7 partenaires qui lancent ce programme-là. People for Soil. Alors, ça veut dire, donc, dans ce réseau People for Soil, il y a des instituts de recherche, des associations d'agriculteurs et des groupes environnementalistes. Donc, tous qui posent la question du sol, de sa non-protection, de l'inquiétude par la dégradation croissante des sols, et au niveau mondial, mais au niveau européen aussi. Donc, toutes ces difficultés, tous ces aspects donc, que j'ai évoqués. Et la pétition dit « Nous voulons que l'Europe reconnaisse le sol comme étant un bien essentiel pour notre vie ». Et donc l'idée, c'est de faire pression sur les institutions européennes pour que soit adoptée une législation spécifique de protection des sols avec des principes, des règles qui seront respectées dans tous les États membres. Une législation un peu cohérente pour l'ensemble des pays de l'Europe. On sait qu'en France, par exemple, on n'a pas de texte qui est consacré à la protection des sols. Il y a juste des réglementations sur les installations classées, par exemple, ou sur la protection des eaux. Et On a par exemple, un des risques. Enfin, il faut savoir aussi qu'un des risques potentiels, c'est les déchets ménagers. Et donc ça, donc avec les pollutions que ça peut engendrer, le stockage qu'il soit ou stocké ou brûlé, et dont ensuite les résidus seront eux-mêmes stockés. Je veux dire, les risques potentiels de pollution sont importants, et au vu de la quantité de déchets qu'on génère et qu'on n'arrive pas à diminuer ou très peu, c'est vraiment aussi un élément à prendre en compte. Donc voilà. Donc
sans être alarmant, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans l'urgence, je dirais, ces lois de protection.
Oui, il y a des choses à faire.
On parle du climat, du réchauffement climatique, mais il y a tout ça aussi.
Donc voilà. Donc là, je dirais aujourd'hui, la pétition est lancée. Il faut récupérer des signatures. Donc nous lançons dans la campagne pour récupérer les signatures et pour amener. Donc, alors il y a un lien déjà que nous allons transférer, qui est sur notre site, qui va permettre à ceux qui le souhaitent de signer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pétition de ce genre doit être signée par des gens. Il y a un moment, je crois, où on demande la carte d'identité, ou enfin, il faut afficher notre réelle appartenance à l'Europe pour pouvoir signer la pétition. Il y a en tout en Europe 400 organisations qui sont mobilisées sur cette initiative, et nous sommes 50 en France impliqués. Donc la pétition à signer, c'est extrêmement important. Nous allons participer à des événements donc dans le mois de mai. Donc ça, je rappellerai là les événements à venir. Je pense que au-delà de cette question-là, pour chacun, je veux dire, parce que souvent quand on voit quelque chose d'alarmant comme ça, on se dit bon, c'est énorme, que faire ? Bon, que faire ? Donc OK, signer la pétition. On n'est pas sûr que ça entraîne, mais ça fait avancer les choses quand même. On le voit sur les autres domaines. Finalement, la mobilisation et la prise de conscience des gens, ça entraîne des changements. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à aller sur ces actions-là. Mais après, on a des choses potentiellement qui peuvent être faites plus modestement et plus individuellement, du genre, essayer d'arrêter de mettre des produits chimiques dans son jardin, son potager ou son bac à fleurs. Bon, et essayer de comprendre comment ça fonctionne et d'aller vers une adaptation à la vie de son propre jardin et l'aider à se sentir mieux et à avoir moins besoin de produits. Donc c'est la même chose que le corps humain, finalement. Si on arrive à avoir une alimentation plus équilibrée, on sera moins souvent malade. Autre possibilité, diminuer notre consommation de viande, parce que c'est ça aussi qui entraîne la nécessité de produire beaucoup plus, etc., etc. Et donc d'être dans un cycle destructeur, finalement. La réduction des déchets, ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire pour éviter de polluer l'ensemble des sols. Voilà. Après, il y a des tas de petites choses aussi, du genre mettre des pavés perméables, en fait, c'est-à-dire ne pas recouvrir son sol, ne pas bétonner trop autour de soi, essayer de conserver justement cette qualité. Bon, planter des arbres, faire du compost, consommer des produits locaux. Enfin, tout ça participe quand même modestement, mais véritablement à une démarche générale et finalement à une meilleure harmonie entre nous, notre petite personne et la terre et notre environnement. Peut-être on a le temps 2 minutes d'une deuxième musique
oui.
Avant que je donne les programmes du mois prochain. Ou bien je dis d'abord et on finira sur la musique.
Voilà, je pense que c'est mieux.
D'accord. Donc notre événement seul à venir, c'est dans le cadre de Cité Solidaire, donc à Digne-les-Bains, du 13 au 26 mai. On aura un stand de jeu du développement durable axé sol. Et puis, donc un après-midi devant la médiathèque le 24 mai de 14h à 18h. Ce sera un peu comment la solidarité nous aide à vivre mieux et préserver les milieux naturels, les sols et l'eau, donc l'appel du sol. Et puis, on a aussi une action sur l'eau dans le cadre du contrat de Rivière Bléone. Donc, voilà, c'est le prochain rendez-vous. Ensuite, lors de la Semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 juin 2017, nous animerons un stand à Château Arnoux pendant les week-ends du 3-4 juin. Et puis, donc, cet événement que nous préparons, ce sera probablement au mois de juillet, vers la fin juillet, sur Digne, donc en partenariat avec le musée Gassendi, qui essaiera de faire le lien entre la vision artistique et la vision scientifique du sol. Donc, on va travailler sur une application particulière, mais ça, on viendra vous en reparler. Avant. Et donc, le lien pour signer la pétition va être mis donc sur les sites. Voilà pour aujourd'hui.
Voilà pour aujourd'hui. C'est copieux. Alors, on se quitte, Martine Vallon, avec Chant pour la Terre.
Voilà, c'est Lucille Aimé.
Et puis on se retrouve bien le mois prochain, le dernier mercredi du mois.
Bien volontiers.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée à tous.